C'est de tout mon cœur, chers amis de Radio Courtoisie, que je vous accueille ce soir dans le monde de la foi, en cette fin de carême. Vivre la semaine sainte en votre compagnie est un privilège, un soutien, une consolation. Et durant ces 40 jours, nous avons tenté de réveiller notre foi, nous avons fait des efforts de vigilance, de renoncement, de simplification, de purification, de ferveur, à travers la prière, à travers les sacrements. Et après 40 jours passés au désert, les souffrances que le Christ endure pour nos péchés nous bouleversent, nous perturbent, nous renverse, nous retourne, opérant dans nos cœurs une surprenante conversion chaque jour de ce carême. Nous sommes dans le temps de la passion et tout de même au fond de nous une petite lueur veille, celle de la petite fille Espérance. Et bien sûr, nous connaissons la suite de l'histoire, nous. Pâques approche et nous nous apprêtons à accueillir la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour nous accompagner ce soir, j'ai invité un pèlerin avisé, un éternel pénitent, un fin connaisseur des apparitions de la Vierge Marie, la Reine de la Paix. La paix dont nous avons bien besoin en ce moment, dans ces temps guerriers. Alors bonsoir, bonsoir Yves Bégassa.
Bonsoir Nicole.
Alors Yves, ça n'a pas été si simple de nous retrouver, parce que c'est au secrétariat de Radio Courtoisie que j'ai entendu parler de vous, de votre livre « La Vierge Marie à Medjugorje ». Et ces apparitions de la Vierge m'ont toujours intriguée, questionnée. Elles ont toujours piqué ma curiosité. Alors j'ai cherché à vous rencontrer, parce que j'avais entendu parler de Medjugorje, j'avais entendu des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. J'entendais un tas de choses. Alors je me suis dit, voilà, un spécialiste, je vais l'inviter. Et j'ai cherché donc à vous rencontrer, mais en janvier, la neige avait recouvert toute la région parisienne, les autorités nous recommandaient surtout de rester chez nous, et le jour où nous devions nous rencontrer, alors en février, j'ai fait une chute, ça m'a valu 3 côtes fracturées, et j'ai dû annuler l'émission. Et puis alors, au mois de mars, Vous étiez en famille pour les vacances avec vos enfants, petits-enfants, etc., en province. Et alors, nous avons dû annuler encore, et nous avons reporté l'émission. Et bien ce soir, enfin, vous voilà bien présents, vous êtes là, et puis moi aussi, et Nathalie, et nous allons pouvoir parler, vous allez pouvoir nous parler de Medjugorje, des apparitions, des messages, de la Sainte Vierge, qu'elle envoie depuis 40 ans.
Oui, bientôt 45 ans au mois de juin. Bientôt 45 ans au mois de juin. Merci beaucoup de m'inviter ce soir pour parler de la Vierge Marie. C'est vraiment un régal pour moi.
Bon, eh bien, pour moi, c'est une soif. Alors, je voulais savoir comment on devient un pèlerin averti, avisé. Comment ça s'est passé? Quelle était votre enfance? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui?
Alors, mon enfant, j'ai été élevé dans un milieu catholique. Toute ma famille était catholique.
Ah oui, maman donc vous avez baigné. Femme...
Oui, complètement. Maman était une femme de foi qui vraiment... vraiment été engagée dans la foi et dans la foi du Christ et engagée dans sa vie. Voilà. Et mes parents...
Mais enfant, vous étiez déjà à l'écoute de ce que disait votre mère?
Oui, parce qu'elle me faisait le catéchisme.
Ah.
Hein, elle me faisait le catéchisme et mes parents m'ont proposé à un moment donné, en sixième, de rentrer au petit séminaire. Et il y avait, nous habitions dans un petit village à Châteauneuf-sur-Cher. Mes parents, toute ma famille étaient des ébénistes, ils avaient une petite entreprise qui a duré un siècle. Et dans le Berry, c'est-à-dire le Berry, c'est le Cher et l'Inde, dans le Berry, il y avait un grand séminaire qui était à Bourges et un petit séminaire qui était près de Vierzon, qui était à près de Nancy.
Ça n'existe plus, les petits séminaires.
Ça n'existe
séminaires.
Plus, ça a été vendu.
Oui, il y en avait partout.
Il y en avait partout, c'est ça, oui.
Et c'est, finalement, c'était l'école...
L'école préparatoire, disons que...
Jusqu'à la sixième. Alors,
ça commençait même en septième, à Saint-Louis, à Neuvy-sur-Barangeon, et jusqu'en philo.
Ah oui.
Et bien souvent, la majorité des jeunes qui restaient en philo rentraient au grand séminaire. Ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai vécu 3 ans là-bas, en internat, de 6e, 5e, 4e. Et après, j'ai
senti... Loin de vos parents, donc.
Loin de mes parents, oui. Je les voyais toutes les 6 semaines, au moment des vacances. Mais c'était une expérience... Enfin, je ne l'ai pas vécu comme une expérience, mais un moment de ma vie... très profond. Donc, j'ai ensuite intégré un lycée dans le Cher.
Mais je voulais vous demander, avant, au petit séminaire, vous étiez donc en pension?
J'étais en pension.
En pension.
Oui, en pension complète.
Et
oui,
c'était
pendant 6 semaines.
C'était les grands dortoirs ou c'était...
Oui, c'était les grands dortoirs, avec 60 personnes dans le dortoir.
C'était la question que je me posais.
Oui, avec 60 personnes dans le dortoir. La messe, une fois, parce qu'on était petits, donc c'était tous les 2 jours. Vous voyez, mais c'était un château avec beaucoup de bois tout autour. Je regarde un excellent souvenir. Et puis on n'était pas nombreux, on était à peu près, je sais pas, 150, 160 jeunes, vous voyez, de la 7e à la terminale.
Tous,
donc c'est quand même pas
tous
beaucoup.
Pensionnaires.
Tous pensionnaires, oui, tous pensionnaires. Voilà. Donc c'était une partie de ma vie. Puis après, je suis rentré dans un lycée laïque en demi-pension. Donc je prenais le car le matin, j'allais au lycée, je rentrais chez moi le soir. Et puis sur le coup des 17 ans, 18 ans, vous savez, c'était la période de 68, etc. À un moment donné, j'ai quitté la foi. J'ai quitté la pratique religieuse et j'ai quitté la foi. Et ça pendant 20 ans. Mais je dis toujours, bah c'est ce que je regrette le plus de ma vie, maintenant je vais sur mes 80 ans cette année, mais je dis toujours que j'ai abandonné Dieu, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Et je donne une preuve, c'est que la personne avec laquelle je me suis marié était dans la foi, dans la recherche,
aviez,
si vous voulez.
Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré?
24 ans. 24 ans, et donc on s'est mariés à la basilique Notre-Dame des Enfants, à Châteauneuf-sur-Cher, à l'église, donc. Et nous avons eu 3 enfants, et ma femme a conduit nos enfants au catéchisme, etc. Pendant ce temps-là, moi je faisais mon jogging le dimanche matin, vous voyez. Et puis, à un moment donné...
enfin, vous aviez accepté que vos enfants soient baptisés.
Ah oui, absolument.
Et qu'ils suivent le catéchisme.
Ah oui, complètement. Oui, oui. Puis je l'ai... Voilà, oui. Absolument. Et à un moment donné, il s'est passé la chose suivante. Ma mère, qui avait 64 ans, donc, on a découvert qu'elle avait un cancer à évolution lente. Et les médecins lui donnaient 18 mois à vivre. Et quand on est arrivé au bout des 18 mois, mon père m'a appelé en janvier 85. En me disant, tu sais, maman a demandé le sacrement des malades, si tu veux venir, viens et participe. Alors, j'ai quitté Paris, nous vivions à Paris, je suis allé à Châteauneuf-sur-Cher, et le prêtre était dans sa chambre, et il y avait une dizaine de personnes, des gens qu'elle aimait beaucoup, ses amis, etc. Et maman était d'une grande sérénité. Tous les gens pleuraient dans la chambre. Et maman avait les yeux rivés sur le Christ, sur la croix, d'une grande profondeur, d'une grande sérénité. Et ça, ça m'a touché. Et le lendemain, quand j'étais avec elle, tout seul, elle était sur son lit, complètement à la fin de sa vie. Moi, j'étais debout, un grand silence, et d'un seul coup, elle décroche sa médaille autour du cou, et elle dit, tu la donneras à ta fille. On avait une petite fille de 2 ans à l'époque. Elle prend sa bague de fiançailles, et la décroche, et elle dit, tu la donneras à ton épouse. Et je lui dis, je la regarde dans les yeux, je lui dis, maman, j'aurais que tu me donnes quelque chose. Alors elle regarde, je vois encore son regard interrogateur. Je lui dis, j'aurais que tu me donnes ta foi. Ce moment était quelque chose de très fort. Et vraiment, je le disais au fond du cœur. Et ça a été un facteur déclencheur d'un certain nombre de signes dans ma vie pendant 7 ans. Alors, je ne vais pas vous tous les vous raconter, mais je peux vous en donner un. Quelques années plus tard, après sa mort, je savais que maman était une personne qui avait fait ses études à Paris, enfin qui était parisienne, et elle allait souvent à la rue du Bac. Mmh. Et j'étais jamais allé à la rue du Bac, mais je savais qu'elle y allait. Et un jour, je passe à côté de la rue du Bac, et je rentre en la chapelle. Et là, il y avait la messe. Tous les gens priaient, etc. Enfin, vous connaissez la chapelle de la rue du Bac. Et d'un seul coup, je ressens un amour, quelque chose, une intensité incroyable, comme quand vous êtes amoureux, si vous voulez. Mais je n'arrivais pas à porter cet amour vers quelqu'un. Très curieux. Alors j'étais vraiment saisi, je quitte la chapelle après la messe.
C'était un miracle de la rue du Bac.
Et au bout de 20 minutes, ça se dissipe. Mais ça, j'étais vraiment interpellé par rapport à ça. Une semaine après, je rentre de chez un de mes clients, je m'assieds dans ma voiture, qui était garée près d'un trottoir à Paris. Je vais pour fermer la portière de ma voiture, mais je vois tout de suite une grande feuille de journal, genre, vous voyez, Figaro, une grande feuille comme ça, un coup de vent, et la feuille de journal vient vraiment s'arrêter afin que je puisse la voir. Et je ne lis qu'une chose, ne crains pas. Je ne vois rien d'autre, ne crains pas. Ça me touche dans mon intériorité, ne crains pas, ne crains pas. Alors j'étais un peu bouleversé, je démarre ma voiture, je rate le périphérique, je vais un peu plus loin, et je m'arrête à un feu rouge, et mon regard porte sur un poteau télégraphié où il y avait marqué, écrit en rouge, « Jésus t'aime ». Alors là, je prenais ça, pour moi, si vous voulez, comment dire, ça a été révélateur pour moi. Le Christ est vivant, il m'aime tel que je suis, et il m'a montré ce signe à la rue du Bac. Tout ça faisait corps, vous voyez. Voilà,
et
un signe.
Il y avait combien de temps que ça s'était pas passé entre la rue du Bac et c'était le même jour?
Une semaine. Mais moi, je reliais tout ça dans ma tête.
Bien sûr.
Parce que ça m'avait tellement, c'était tellement perturbant, vous voyez, que ça, voilà. Donc, progressivement, j'ai renoué, et quelques temps plus tard, je faisais toujours mon jogging. Et je passe devant l'église paroissiale de Fontenay-aux-Roses. Et l'église était ouverte, il faisait 15h, il était 15h après-midi, l'église était ouverte. Et donc je me hasarde, je me dis, je vais aller voir vers l'hôtel. Il y avait très longtemps que je n'étais pas rentré. Je m'avance dans l'église jusqu'à l'hôtel, et là, il y avait sur le pupitre, il y avait une Bible ouverte. Et je lis, parce qu'une Bible, il y a un tas de choses écrites. Il y a une phrase qui me touche. « Frappe à ma porte, je t'ouvrirai. » Et ça, cette phrase, si vous voulez, m'a envahi. Je dis ça vraiment pour les auditeurs qui m'écoutent, c'est véritablement que la parole de Dieu est une parole active. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est Dieu qui nous parle. Et Dieu m'a parlé en disant « Ne crains pas ». Plus tard, j'ai compris que dans la Bible, il existe 366 fois « Ne crains pas », une fois par jour, n'aie pas peur. Laisse-toi faire, abandonne-toi à moi, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et là, je frappe à ma porte, je t'ouvrirai. Et j'ai arrêté de faire du jogging, Et je suis rentré tous les matins, j'allais à la messe tous les matins, enfin pas tous les matins, tous les dimanches, excusez-moi, au fond, à droite, au fond, derrière un pilier, mais j'étais là, jusqu'au moment où progressivement j'ai voilà. Et puis j'ai rencontré, un peu plus tard, je vais assez vite, deux religieuses franciscaines qui me disent, Yves...
Vous les rencontrez où ?
Alors où ? Je me suis engagé, à un moment donné, je me suis dit, écoute, si tu reviens à la foi... Il faut que tu, ben, que tu vives ta foi. Et je suis allé voir la responsable du Secours catholique dans ma paroisse, et je lui ai dit, écoutez, je suis très pris par mon milieu professionnel, par ma famille, etc., mais je voudrais faire quelque chose pour les plus pauvres, pour, dites-moi ce que je peux faire. Alors elle me dit, écoutez, vous pourriez écrire aux prisonniers à Nanterre, et pour ce faire, il faut écrire au Secours catholique de Nanterre qui donne votre lettre au prisonnier sous pseudonyme, voilà. Et le temps que le prisonnier vous réponde, il faut 15 jours, 3 semaines, si bien que ça ne va pas vous coûter beaucoup de temps. Moi, je lui ai dit d'accord. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et à un moment donné, le Secours catholique des Hauts-de-Seine m'appelle en me disant, vous serez peut-être intéressé, mais il y a un ancien sortant de prison qui fait une conférence au Secours catholique des Hauts-de-Seine, à Nanterre. Voilà, vous pouvez venir. Alors moi, j'y vais. Et il y avait effectivement un garçon qui s'appelait Serge et une sœur qui s'appelait Marie-Agnès, qui était franciscaine. Alors je vais vous raconter assez brièvement l'histoire de Serge. Serge, il avait fait 12 ans de prison. Il a fait d'abord 3 ans pour vol à main armée, pour vol, oui. Il a ensuite récidive 5 ans et ensuite 7 ans. Mais avec la compression de peine, il en a fait 12 ans. Mais il en avait marre. Et à chaque fois qu'il ressortait, si
vous
voulez...
Il avait quel âge ?
Serge, il avait 18 ans, 19 ans.
En
sortant, il devait avoir une quarantaine d'années, vous voyez. Mais à chaque fois qu'il sortait, il n'avait pas de logement. Donc, il n'avait pas d'emploi. Il n'arrivait pas à retrouver un emploi parce qu'on ne voulait pas lui sortir de prison, si tant est qu'il retombait sur sa bande et à chaque fois il repartait pour faire des mauvais coups. Et cette fois-là, troisième récidive, à un moment donné, il faisait chaud, ils étaient trois dans la chambre, et il appelle le gardien, il dit « je voudrais voir le curé ». Ben, il ne savait pas trop, mais il savait qu'il y avait un prêtre, un aumônier, qui était dans la prison à Bois d'Arcy. C'était le Père Aubry. Et il va, le gardien l'emmène à la chapelle, et là il y avait un certain nombre, une quarantaine de personnes qui, et le père Aubry qui célébraient la messe. Et Serge se met contre le mur au fond, et il regarde. Et au moment de l'élévation de l'Eucharistie, il se met à pleurer. Mais pas moi, Serge, pas moi. Moi, il y a les femmes et je chiale, mais pas moi. Et là il ne comprend pas. Il rentre dans sa chambre et ça boucle dans sa tête, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il demande 15 jours plus tard à aller voir à nouveau le père Aubry et il assiste encore à la messe. Et à la fin de la messe, le père Aubry lui met la main sur le cœur et lui dit « Le Seigneur t'a touché ». Puis le père y part. Serge, il était bouleversé, il rentre dans sa chambre et quelque temps plus tard, il appelle le gardien et dit « Je veux une visiteuse de prison, mais je veux que ça soit une bonne sœur. » Alors le gardien, ne sachant pas trop, il va voir le père Aubry, bref, et le père Aubry les met en relation avec une sœur qui s'appelait Marie-Agnès, franciscaine, et qui était visiteuse de prison. Et ils ont fait un cheminement pendant 2 ans. Et Serge m'a dit, tu sais, c'est moi qui ai demandé, mais je me suis dit au bout d'un an, pourquoi elle vient ? Tout m'est passé dans la tête, pourquoi il vient me voir ? Et tu sais, j'ai compris au bout d'un an, qu'elle venait me voir d'une manière gratuite. Et là, mon cœur s'est ouvert. Et je lui ai dit, mais alors, comment tu vis ? Tu lis la Bible, qu'est-ce que c'est ? Donne-moi une Bible, etc. Et Serge, il se mettait tous les matins à genoux dans sa chambre. Il demandait à ses coturnes de d'éteindre la télé, de se taire, et il priait. Et quand il est sorti...
Ils étaient trois dans la chambre.
Quand il est sorti de prison, et il a dit à la sœur, mais écoute, je sors de prison, mais mes collègues, ils vont sortir aussi. Et ils n'ont pas de logement. Il faut qu'on fasse à tout prix quelque chose pour leur acquérir un logement, construire un logement. Alors la sœur, elle dit, ben Serge, oui, mais moi je suis dans une communauté de sœurs franciscaines, c'est pas tellement notre voie, si tu veux. Si t'as pas de logement, tu viens chez nous, mais tu seras avec des bonnes sœurs. Elle dit, oui, d'accord. Et Serge, il a vécu, je sais plus si c'est 6 mois ou 9 mois, chez les sœurs franciscaines à Paris. Et il faisait les offices du matin, il allait à la messe, etc. Bon. Mais toujours, il disait à la sœur, il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose. Il était tellement casse-pied que la sœur, à un moment donné, a dit, écoute Serge, moi je veux bien, si c'est un signe de Dieu, moi je veux bien. Mais on va lui demander. Et ils ont prié, et ils faisaient des conférences, comme ils en ont fait une au Secours catholique, dans des paroisses. Et à un moment donné, à la fin de la conférence, il y a un couple de retraités qui rencontre Serge et la sœur, et qui dit, écoutez, nous avons 2 pavillons, un à Maurepas et l'autre à la campagne, on vous donne celui de Maurepas. Vous me donnez celui de Maurepas. Ils vont là-bas, Serge y voit que ce pavillon, où il pouvait y avoir 4 ou 5 personnes, et il voit le jardin, et lui, il compte 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8. Il dit, je peux faire 8 studios. Et la sœur a reçu dans le cœur, lève-toi et marche. Lève-toi et marche chez les 4 porteurs du paralysé. Et ils ont commencé, en 1989, à monter cette association. Donc, ils n'avaient pas d'argent. Donc, Serge a dit, ben, c'est simple, on va aller voir l'évêque, et on va lui demander de l'argent. Et je rembourserai. Et ils sont allés voir Monseigneur Thomas à Versailles, et il m'a dit, j'ai besoin de 350 000 francs pour acheter du ciment, du sable et des truelles, etc. Et l'évêque a dit d'accord, et Serge et les sœurs ont construit. Alors les sœurs, il y avait Marie-Agnès, mais il y en avait 2 autres, parce que pour qu'il y ait les 4, vous voyez, puis la sœur, elle ne voulait pas rester toute seule avec Serge. Donc, ils ont commencé à construire le 8 studios, et ils ont remboursé ensuite, ils ont fait un petit journal, etc. Il y a eu des dons qui sont tombés, ils ont remboursé toute la somme au père. Et puis, moi, je les ai connus, quand ils ont fait cette conférence, ils m'ont invité. Et ils m'ont demandé de rentrer au conseil d'administration.
C'était déjà construit ?
C'était en cours de construction, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, ils accueillaient des gens de la rue, ils accueillaient des gens sortant de prison, mais aussi des gens de la rue. Progressivement. Donc je suis rentré au conseil d'administration, j'y suis resté pendant au moins 20 ans ou 25 ans, et à un moment, Serge en 2005 est mort, les sœurs, Marie-Agnès notamment, a été appelée par sa congrégation pour prendre toute la responsabilité, elle devait partir, il y a une sœur qui est décédée, etc. Donc on s'est retrouvé rien que des bénévoles laïcs, avec cette association, où on l'a fermée, où on continuait. Et bon, on m'a demandé d'être
précis. Il y avait combien de logements ?
Alors, progressivement, on a commencé à 8, et on est allé jusqu'à 24. Ah. Donc on accueillait des gens de la rue, des gens sortant de prison, des gens malades, si vous voulez, et ils avaient chacun leur studio, on dînait ensemble, déjeunait ensemble, et puis on les parrainer, on les aidait à ce qu'ils remettent des papiers en ordre, à ce qu'ils retrouvent un travail quand c'était possible, etc. etc.
Une discipline aussi pour...
Ah, une discipline, oui, ça c'est sûr. Oui, parce que c'est pas... on avait quand même de tout. Hein.
Oui.
Voilà, donc c'était une très belle œuvre. Et si vous voulez, j'ai été président de ça pendant 8 ans. Et après, on a dû essayer de trouver des bénévoles pour continuer. J'en ai pas trouvé, donc on a fusionné avec le Secours catholique, les cités du Secours catholique, voilà. Alors voilà cette histoire, c'est comme ça que j'ai connu les sœurs. Et les sœurs me disent, pour revenir à Medjugorje, les deux sœurs, sœur Jacqueline et sœur Marie-Agnès, qui sont décédées il y a quelques années...
Ce sont des...
Franciscaines.
Des franciscaines.
Elles me disent, Yves, vous devriez aller à Medjugorje, nous en venons, la Vierge apparaît. La Vierge apparaît. Pour moi, la Vierge était apparue à Lourdes, mais il y a 150 ans, c'était pas...
Oui, pour moi aussi.
Alors, je rentre à la maison, et mes enfants disent... j'avais 3 ans, avec mon épouse, on a 3 enfants. À l'époque, ils avaient 12 ans, 18 et 20 ans. Ils me disent, papa, qu'est-ce qu'on fait cet été? Est-ce qu'on fait un voyage comme l'année dernière? Ah ben, je lui dis, écoutez, d'accord. On va en Yougoslavie. Ah ben, d'accord. Oui, mais c'est un pèlerinage. Oh, bon, on y va quand même. Et j'ai pris les 5 billets et on est parti.
Et ils avaient quel âge, les enfants ?
12 ans, 18 et 20 ans. Alors, on est parti dans le cadre d'une association qui s'appelait l'association Notre-Dame de la Paix. Et une dame qui avait monté ça, qui avait été guérie là-bas, son mari, très cartésien, qui était un ingénieur des mines, athée, a été bouleversé et s'est converti. Et cette femme a vendu sa petite société et a monté une agence de voyage pour emmener des gens voir la Vierge. Et elle a fait ça pendant 40 ans, quoi. Alors, c'est important ce que je vous dis là, parce que elle m'a, à un moment donné, elle m'a dit « Est-ce que vous pourriez nous aider, etc. ?» Et bénévolement, j'ai accompagné des gens. C'est comme ça que j'y suis allé énormément de fois, peut-être plus de 70 fois, où j'ai emmené à peu près 2000 personnes, peut-être, vous voyez, oui. Où j'ai accompagné. Enfin, voilà.
On va écouter... c'est une musique que vous m'avez apportée, qui est une musique... Est-ce que vous pouvez dire ce que...
Alors, j'ai pas en tête le
non, mais ce mais que je, ça j'ai évoque acheté pour ce... vous et pourquoi et...
Oui, alors c'est une musique que j'ai achetée là-bas à Medjugorje et qui est souvent passée durant les temps d'adoration. Vous voyez, c'est... Enfin, vous allez voir, c'est très très beau. Enfin, c'est ce que je ressens, mais maintenant c'est...
Mais pour vous, c'est mêlé à des souvenirs et
à
ça
des souvenirs
veut dire
de là-bas. De là-bas,
c'est très,
oui,
c'est très vivant
absolument.
Pour vous.
Oui, oui.
Qu'est-ce que cela fait pour vous d'entendre cette musique? Qu'est-ce que ça produit en vous?
Ben, beaucoup de souvenirs, parce que, oui. Vous voyez, là-bas, il y a un programme liturgique qui est très important, que la Vierge a demandé de construire progressivement.
Mais ça se passe en quelle langue?
Alors, ça se passe en croate, mais il y a des traductions dans toutes les langues, parce qu'il y a des gens du monde entier qui viennent. Donc il y a plusieurs traducteurs, traductrices, des cabines de traduction, et on prend des écouteurs et on écoute en français, quoi.
Voilà. Oui, oui.
Voilà. Donc durant cette musique, et souvent, on l'entend dans les temps d'adoration. Vous voyez, le soir, c'est magnifique. Donc ça me porte, ça m'élève l'âme.
Voilà. Oui, ça vous... Ça vous transporte?
Ça me transporte. Alors, quand on est arrivé à Medjugorje, j'avais le cœur... Parce que quand on va là-bas, si vous voulez, c'est quand même... c'est un pays... Alors, Medjugorje, d'abord, je vais vous dire où c'est en Bosnie-Herzégovine.
C'est à combien de kilomètres d'ici?
2000 kilomètres.
Oui.
La Bosnie-Herzégovine, c'est un pays qui est entre la Croatie, la Serbie... Croatie à gauche, la Serbie à droite et le Monténégro au sud. Et l'Herzégovine, c'est la région sud de la Bosnie.
Tout près des Balkans, hein, tout ça.
C'est dans les Balkans. Alors, la Bosnie-Herzégovine, c'est à peu près 3 millions, un peu plus d'habitants.
Oui, c'est petit.
C'est petit, c'est pauvre. Un pays très pauvre, majorité musulmane, à la fois chiite et sunnite.
Les deux.
Un tiers d'orthodoxes serbes, 8 à 10% de catholiques. Et les catholiques sont principalement dans le sud, très proche de la Croatie.
En bord de mer un peu ?
Alors, pas du tout. Pas du tout en bord de mer, mais il y a une enclave, comme la Serbie a une enclave, pour accéder à la mer Adriatique. Et la Bosnie a une enclave pour accéder à la mer Adriatique à côté de Dubrovnik, vous voyez, entre Dubrovnik et Monténégro. Voilà. Mais non, c'est dans les montagnes. C'est un pays, je vous disais, très pauvre. La terre, c'est une terre glaise qui est très très pauvre. Beaucoup d'épineux, beaucoup de rochers, de rocailles.
Et par rapport à Sarajevo, c'est...
Alors,
c'est...
Sarajevo est la capitale.
Oui.
Elle est plus au nord. Hein. Sarajevo est la capitale. La capitale de la Croatie, c'est Zagreb. Voilà. Et la Croatie, c'est l'ouest, c'est tout proche de la mer. Hein. Ça jouxte la mer. Et puis, c'est au nord de la Bosnie. Voilà.
Vous y êtes allé en voiture, donc ?
Alors, ça m'est arrivé d'y aller en voiture.
Avec les enfants, la première
fois ? Avec les enfants,
on
y est allé en avion.
Ah oui.
Alors, en avion, c'est Paris-Split ou Paris-Dubrovnik ou Paris-Sarajevo. À partir de là, c'est à peu près équilatéral. On prend un bus et on a 2h30 de voyage, vous voyez ?
C'est organisé.
C'est organisé par les agences de voyage hein, qui font ça. Mais ça m'est arrivé d'y aller avec mon épouse en voiture. Mais là, on a mis 2 jours.
Ah oui, oui, oui.
On a mis 2 jours, oui, oui. Et traverser, voilà, bon.
Et là-bas, sur place, il y a de l'hôtellerie comment...
Alors, là-bas, sur place, alors c'était au début, vous voyez, c'était, je vous disais, c'était un pays très, très pauvre. Les paysans travaillaient le tabac, cultivaient le tabac et cultivaient la vigne. Et ils étaient... Medjugorje n'existait pas. Il y avait des villages le long des coteaux de la montagne, dont un qui s'appelle Biakoritchi. Et ces villages avaient fait construire une église qui était au 18e, 19e siècle, une église qui était dédiée à Saint-Jacques, figurez-vous. Et cette église dédiée à Saint-Jacques n'était pas suffisamment grande. Et d'autre part, il y avait des problèmes sismiques, si bien qu'il y avait des fissures, etc. Et ils se sont dit, il faut qu'on reconstruise une église plus grande. Et cette église plus grande, ils l'ont construite dans la plaine, au milieu des vignes, du tabac, etc. Et c'est dans cette église, ça a été construit. Donc il y avait l'église et le presbytère. Et puis d'un seul coup, tout bascule. Tout bascule parce que la Vierge apparaît le 24 juin 81. Mais avant, vous voyez, le pays était très pauvre pour plusieurs raisons. Le sol, je vous ai dit, et les gens cultivaient, je vous ai dit, le tabac et la vigne. Mais l'État communiste, c'était lui le principal acheteur. Et donc, il achetait le tabac, le produit, au prix où il le voulait. Si tant est que les gens avaient très très peu de marge. Si bien que les hommes étaient obligés de partir travailler en Allemagne, travailler dans d'autres pays, en Autriche, etc., pour faire vivre leur famille. Et c'était par rapport à la question que vous me posiez, savoir s'il y a des pensions, des hôtels, quand la Vierge est apparue, elle a dit « arrêtez de cultiver le tabac ». Elle n'a pas dit la vigne, heureusement, parce que le vin, il est bon. « Arrêtez de cultiver le tabac, construisez plutôt des pensions pour accueillir les gens ». Alors au début, c'était vraiment, ils ont dû s'interroger, mais ils ont construit des pensions qui sont devenues de plus en plus grandes. Et comme ça draine énormément des millions de gens du monde entier, ce qu'il y a eu aussi, le communisme s'est arrêté,
les marchands du temple sont arrivés.
Les marchands du temple sont arrivés et ils ont construit des hôtels. Oui. Vous voyez ? Des hôtels qui sont beaucoup plus grands, etc. Voilà.
Je vais demander à Nathalie de nous lire quand même, non pas le texte, simplement dire qui parle et de quoi nous parlons pour Radio Courtoisie.
Vous écoutez le Libre Journal du Monde de la Foi, dirigé par Nicole Pilorge. Elle reçoit Yves Bégassa, écrivain et catéchiste, qui a écrit le livre « La Vierge Marie à Medjugorje » aux éditions Pierre Téqui.
Alors nous reprenons la route de Medjugorje.
De Medjugorje. Oui, alors donc il y a eu beaucoup de constructions, vous voyez,
oui.
Et Dieu sait, heureusement, parce que ça permet aux pèlerins dont je suis de pouvoir être confortablement installés, si vous voulez, quand on va là-bas.
Oui.
C'est important. Et on mange très très bien, on mange des produits locaux, etc. C'est un petit paradis d'une certaine manière. Oui, non, pas d'une certaine manière, réellement. Voilà. Mais on peut s'interroger pour savoir, parce que j'ai entendu Medjugorje serait une fabrication du surnaturel. Alors ça m'a fait bondir quand j'ai entendu ça. C'est impossible de faire venir pendant plus de 44 ans des gens du monde entier dans un pays où vous n'avez pas de piscine, vous n'avez pas vous avez que de la rocaille et des épineux. Que viendraient faire les gens? Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, il y a une dame en France qui prétendait voir la Vierge. Et figurez-vous que la Vierge, c'était Notre-Dame de la Paix. Alors, je me suis posé les questions, mais ça a duré quelques mois. Alors, même que ces quelques mois, ils avaient déjà créé des médailles, vendu des médailles, etc. Mais ça n'a pas pu durer plus longtemps que ça. C'est pas possible. Parce que Medjugorje, si vous voulez, ça s'est développé sans l'appui des communications, des médias. La Vierge Marie n'a pas fait du marketing.
Oui, oui.
Elle a touché des gens qui, dans le monde entier, prient et touchent d'autres personnes.
Bon, alors, on va commencer à raconter l'histoire.
Oui.
Alors, c'était donc de grands enfants et de plus petits enfants.
Si vous voulez, les six enfants, Yakov avait 9 ans et Viska devait être l'aîné, devait avoir 17 ans, vous voyez.
Oui.
Donc, il y a six enfants.
Adolescents. Enfants.
Alors qui vivait dans ce petit village de Biakovici, sauf deux personnes, Ivanka qui vivait dans un village à 10 km et Mirjana qui vivait à Sarajevo, qui faisait ses études à Sarajevo. Mais elles venaient, ces deux jeunes filles revenaient dans le village de leurs grands-parents et donc ils se côtoyaient pas, ils se connaissaient quoi.
Oui.
Vous voyez. Et le 24 juin...
De quelle année ?
81, excusez-moi, 24 juin 81, c'est le jour de la Saint-Jean-Baptiste.
Oui.
Celui qui annonce le Messie, que le Messie va venir. Et ce 24 juin, alors je ne sais plus trop dans le détail, mais je crois que c'est Viska et Mirjana qui se passent à côté de la colline. Elles se promenaient et d'un seul coup, elles sont intriguées par une femme qu'elles voient sur la colline. Et donc elles ont peur, elles appellent leurs amis qui étaient là avant, et puis toutes les six, elles voient cette dame qui portait un enfant dans les bras. Alors dans mon livre, je donne tous les détails, mais là je les ai plus trop en mémoire, et puis...
La dame a une robe grise.
Alors c'est ça, oui.
Un
voile blanc.
Et cet enfant qu'elle porte ?
Et cet enfant, c'était l'enfant Jésus, mais il était tout petit, tout petit.
Et elle a une couronne d'étoiles ?
Alors plus tard, elle a une couronne d'étoiles, et le petit Yakov dit elle a le même nombre d'étoiles que la Vierge dans l'église, elle en a 12, mais sauf que la Vierge, la couronne d'étoiles de la Vierge de l'église, elle est attachée, alors que là, avec la Vierge Marie, c'était pas attaché, les étoiles sont libres. Voilà. Mais donc, ces enfants reviennent chez leurs parents, etc., leurs parents du Tu as vu une dame, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, une de grand-mère qui dit...
Donc, ils étaient six ou
à voir. Ils étaient six, oui. Alors, je crois, ils étaient six, oui, c'est ça. Et ils y sont retournés le lendemain, mais la grand-mère de Visca dit « Si tu revois cette dame, prends de l'eau bénite et fais-lui un signe de croix. Si ça vient du diable, le diable y partira. » Et c'est ce qu'ils ont fait, et la dame apparaît, et cette fois-ci, elle va parler. Et elle a donné son nom, « Je suis Notre-Dame de la paix ». Et Visca a fait un signe de croix pour savoir si c'était réel, et la Vierge Marie a souri. Voilà. Alors je donne beaucoup plus de détails sur ce qui s'est passé ces sept jours. C'est les premiers sept jours. Ce qui est important, alors, du côté des...
Elle a parlé ce deuxième... C'était donc il y a eu un premier jour...
Le premier jour, c'était grand silence. Ne disait rien. Et le deuxième jour...
Avec
l'eau bénite. Et puis elle a parlé aux enfants. Oui. Alors, de plus en plus, ça se savait dans le pays, tout le monde en parlait, les parents, les familles, les voisins, etc.
Dans votre livre, on voit vraiment la progression entre le premier jour, deuxième jour, troisième jour.
C'est ça, oui. Alors, vous aviez des gens qui venaient de plus en plus sur la colline, et vous aviez les autorités, parce que c'était sous le régime communiste, les autorités communistes qui ne plaisantaient pas. Et qui ne voulaient pas.
Ça ne leur plaisait pas
trop. Ça ne leur plaisait pas du tout que les gens viennent comme ça. Ils pensaient à une révolution, qu'ils allaient monter quelque chose. Donc ils ont empêché, si vous voulez, les enfants d'accéder à la colline. Mais la Vierge leur apparaissait ailleurs. Et ça a été très très dur pour les enfants, parce qu'ils ont été...
Soupçonnés de mentir, de raconter des histoires.
Ils ont été enfermés. Interviewés, mais des enquêtes terribles, enfin très très longues, policières, enfermées. Miriana parle dans son livre, mais j'en fais état dans le mien, elle parle du fait qu'elle a été, à un moment donné, elle s'est trouvée dans une pièce complètement noire, et puis au bout d'un certain temps, ses yeux se sont un petit peu acclimatés, et elle a perçu une ombre pensant que c'était une table, et elle s'est approchée, et c'était la morgue. Elle était enfermée avec des gens qui étaient morts. Ils l'ont enfermée également dans un hôpital psychiatrique, etc. etc.
Mais les douceurs communistes.
Les douceurs communistes. Et là, il y a eu des gens qui ont disparu, qui ont été emprisonnés, etc. Non, c'était vraiment...
Elle avait à peu près quel âge lorsqu'elle était enfermée, là ?
Elle devait avoir 16 ans.
Oui, c'est terrible pour 16 ans, se retrouver...
Elle raconte dans son livre, c'est un très beau livre qui est à lire, le titre, c'est Chetecky, Miriana Chetecky, un très beau livre, ça va me revenir, bon voilà. Mais oui, ils ont vécu vraiment la torture morale, y compris leurs parents et leur famille. Il y a des oncles qui ont disparu. Et ça ressemble un petit peu à ce que les voyants de Fatima ont vécu, à ce que Bernadette a vécu.
Et Bernadette, tout.
Voilà. Alors, il y avait ce phénomène donc de la milice qui voulait les empêcher, qui faisait des... Mais le père Iozzo était le curé, venait d'être nommé curé de Medjugorje. Et voilà qu'il arrive de Zagreb et il tombe sur les parents qui leur disent « Mais vous savez ce qui se passe dans votre paroisse, père ? Les enfants disent que la Vierge apparaît. » « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais arrêtez de leur dire qu'ils racontent des mensonges, c'est inadmissible. » Et lui, le père Iozzo, il pensait que c'était un coup monté par les communistes. Alors c'était complètement l'inverse.
Ah oui.
Alors que les communistes disaient « Le curé est responsable de ça. Ouais. Et il faut qu'on l'arrête. » Et alors les parents, écoutez père, posez-leur des questions. Alors il les a interviewés les uns après les autres en leur disant, écoutez, si vous dites des mensonges, c'est très grave par rapport à ce que vous dites là. Mais non, je vous assure père, la Vierge, c'est la Vierge qui, elle nous l'a dit, elle apparaît. Alors il était vraiment très 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 dubitatif encore, hein, il s'interrogeait.
Ce qui est du bon sens.
Ce qui est du bon sens. Il y a eu l'évêque, Monseigneur Zanich, qui était à Mostar,
Et donc, Medjugorje était rattaché à Mossad. Et l'évêque, au début, est venu à rencontrer les voyants et a déclaré dans son homélie qu'il y avait bien des apparitions de la Vierge. Le temps a passé un petit peu, quelques jours, et le père Iozo était en train de prier tout seul dans l'église de Medjugorje, et il demandait instamment au bon Dieu le discernement par rapport à ça. Et d'un seul coup, il entend, au fond de lui-même, « Sors de l'église et sauve les enfants ». Alors, l'une et deux, il sort de l'église, il ouvre la porte, il voit les enfants qui se précipitaient, parce que la milice, la police les pourchassait. Donc il les fait rentrer dans le presbytère. La police passe devant le presbytère. Vous les avez vus, les enfants ? Oui, oui, je les ai vus. Et ils sont partis. Les policiers sont partis. Et là, il a pris conscience que c'était réel. Et il a demandé aux gens, aux paroissiens, de venir dans l'église prier, en disant, parce qu'au départ, ils se disaient... Mais pourquoi elle apparaît là-bas? Elle peut apparaître dans l'église. Dans l'église, il y a le Christ. Voilà, il ne comprenait pas. Et il a demandé à ce que les paroissiens puissent venir. Alors, les voyants l'ont dit aussi, bien sûr, mais la Sainte Vierge, elle connaissait tout ça bien. Mais ils lui ont dit, Vierge Marie, est-ce que tu pourrais venir dans l'église? Et elle est apparue dans l'église un certain nombre de fois à ce moment-là, vous voyez. Voilà. Et il y a une...
Donc, la colline était loin.
La colline, Medjugorje, il y a trois... Sur cette plaine, vous voyez, il y a trois points, trois pôles. Il y a l'église, il y a la colline des apparitions qu'on appelle le Pot de Bordeaux, et il y a une autre colline qui s'appelle le Crisévac, j'en parlerai tout à l'heure. Alors c'est un triangle équilatéral qui fait à peu près, je ne sais pas, 2 kilomètres de côté peut-être, hein, peut-être un peu plus, vous voyez. Bon, mais ce n'est pas très très grand, mais ça permet... quand on va là-bas, aussi d'être seul, on n'est pas pris dans la foule, etc. Voilà.
Oui, oui.
Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, faut que je reprenne le fil de mon esprit. Oui, oui, à un moment donné, une petite histoire, la Vierge avait dit « Priez, priez, priez ». Vous ne connaissez pas la force de la prière. Avec la prière et le jeûne, vous pouvez arrêter la guerre. Et ce jour-là, les gens priaient dans l'église et il y avait tellement de monde que l'église était pleine et ils étaient à genoux et dans l'église et tout autour de l'église et les gens priaient le chapelet. Et d'un seul coup, il y a eu des militaires qui sont arrivés en camion. Tous les soldats sont descendus, mitraillettes au poing. Ils ont entouré tous les paroissiens et ils ont sorti une mitrailleuse prêt à tirer. Et le soldat et les gens ont continué le chapelet. La Vierge avait continué de prier, prier, prier. Et l'officier a téléphoné à son supérieur en disant « Moi, je ne peux pas faire tirer sur des gens qui sont en train de prier. Soldats, rentrez dans les camions, ils sont partis. » Il y a eu un autre phénomène aussi, c'est que...
Il faudrait bien en parler à Trump, ça.
Eh oui, si je vous raconte ça, c'est parce que réellement, elle a eu deux exemples où elle nous a montré que par la force de la prière, ce qu'elle dit, c'est
la
vrai.
La foi,
la prière et le jeûne, vous pouvez arrêter la guerre. C'est mon appel de ce soir, c'est précisément ça.
Oui.
Le monde, notre monde est complètement dans les flammes. On a cette responsabilité de prier et de jeûner.
Oui, elle parle beaucoup de du jeûne, justement.
Elle parle du... Alors, si vous voulez, il y a cinq... on appelle ça les cinq cailloux de David par rapport à Goliath. C'est le père Iozo qui dit ça. Alors, quels sont ces cinq cailloux? Prier le rosaire tous les jours. Jeûner le mercredi et le vendredi. Pourquoi le mercredi? Au pain et à l'eau. Pourquoi le mercredi? Parce que le mercredi, c'est la préparation de l'Eucharistie du jeudi. Et le vendredi, bien sûr, c'est le sacrifice suprême de Jésus. Et elle disait qu'elle, elle jeûnait avec ses apôtres. C'est du jour-là. Elle nous dit aussi la confession. Et la confession est très très importante. Elle dit « Confessez-vous au moins une fois par mois ». Pourquoi ? Parce que notre âme doit être la plus pure possible pour qu'il y ait une relation la plus forte possible avec Dieu. Et je peux vous assurer que j'ai vu des gens complètement convertis, guéris, après des confessions.
Oui, oui.
Confessions qui n'ont pas été faites depuis 20 ans, 30 ans. Moi, pendant 20 ans, je ne me s'étais pas confessé. Quand je me suis confessé, mais le Seigneur m'a enflammé le cœur. Je n'avais qu'une envie, c'est de prier dans le silence. Mais j'étais capable de prier. Je faisais 7 heures par jour, 8 heures par jour. Ça m'a cessé depuis 30 ans, vous voyez, je continue de prier.
Vous étiez encore, vous n'étiez pas retraité, vous étiez j'étais pas retraité, dans la vie active.
Oui, j'étais dans la vie active. Et si vous voulez ce que j'ai vécu là, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. Et dans ma vie professionnelle, je peux vous raconter ça si vous voulez, je ressentais au fond de moi-même, j'étais manager dans une grande entreprise et je me disais, je comprends qu'il faille satisfaire les clients, c'est la moindre des choses, les actionnaires, je comprends très bien tout ça, et les salariés, tout ça c'est tout à fait normal, mais je pense, ce que j'avais dans le cœur, c'est qu'une entreprise doit faire quelque chose malgré tout dans le domaine sociétal, pour les gens qui sont sur le bord de la route, pour les gens qui sont en chômage, pour le pauvre gars qui a une vie détruite pour X raisons. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Et c'était la question que je me posais. Qu'est-ce que je peux faire, moi, qui suis cadre dans une grande entreprise? Et je me la posais dans un contexte difficile, parce que nous connaissions le 14e plan social. Quand je suis rentré dans cette entreprise, nous étions 42 000. Et là, à l'époque où je vous parle, il y avait, on n'était plus que 25 000 ou 20 000. Et là, c'était le 14e plan social. Et j'avais cette idée...
Douloureux.
Douloureux. J'avais cette idée de qu'est-ce que je peux faire pour créer des emplois à caractère sociaux. Mais j'étais dans une entreprise haute technologie. Les gens qu'on recrutait, les peu de gens qu'on recrutait, c'était des cadres, bac plus je ne sais pas combien, des experts dans différents domaines, vous voyez. Mais deux choses me sont venues dans le cœur. La solidarité pour la lutte. Je voyais une marguerite, et le cœur de la marguerite, c'était la lutte contre le chômage. Et chaque pétale, c'était l'ensemble des acteurs, l'État, l'entreprise et le citoyen. Et la solidarité. Voilà. Et j'ai proposé à ma société de monter une association pour créer des emplois à caractère sociaux. Et j'y associais mon entreprise. Et c'était pas évident, parce que dans le contexte que je viens de vous dire, voilà.
Oui.
J'ai voulu y associer aussi les syndicats à travers le comité d'entreprise.
Oui, alors vous au départ, comme un fou, pour un fou.
Il me prenait pour un fou, puis il me disait « Oui, Bégassa, vous licenciez 14 400 personnes et puis vous allez créer quelques emplois, etc. » Donc, ils ont compris la raison pour laquelle je faisais ça et l'engagement, parce que si je me plantais, j'étais aussi dehors. Hein. Et tous ont signé. Mais je leur ai dit... à travers le CE, vous donnez de l'argent pour faire des voyages en Thaïlande, etc. Vous allez me donner 100 000 francs pour asseoir le compte d'exploitation de l'association. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Le comité
tous les
d'entreprise
ans, a donné 100 000 francs. Il y a un autre facteur qui était assez extraordinaire, c'est-à-dire que pour monter mon association de service aux personnes, c'est-à-dire la vente, j'avais la vente des produits des commerçants de la petite ville à côté. J'avais demandé aux commerçants, il y avait une association des commerçants. J'ai dit, vous nous laissez vos produits, on les vend pour vous et vous nous donnez la moitié de votre marge. Chacun participait. La municipalité, elle a fait faire des travaux pour nous. Mon entreprise, elle m'a laissé les mètres carrés gratuits. Chacun participait, si vous voulez. Le CE nous donnait 100 000 francs. Et les salariés ont commencé à acheter les produits. Demander le coiffeur, la couturière, le couturier, qui est une entreprise d'insertion, lavage de voiture, qui est une entreprise d'insertion, le repassage, qui est une entreprise d'insertion, etc. Vous voyez ? Et toutes ces entités étaient dans l'association. Et chacun donnait quelque chose. Et les salariés participaient véritablement, parce qu'ils savaient qu'en achetant quelque chose, ça répondait aux besoins des 15 personnes. Après, on en a embauché davantage. Mais il y avait des sortants de prison. Il y avait un gars qui était sorti de prison, il avait la voiture. Je peux vous assurer qu'il était content de participer, si vous voulez, dans une grande entreprise. Il faisait partie des meubles, quoi, en quelque sorte. Voilà. Alors, on en a sorti un certain nombre. Et puis, des gens sont des gens au chômage longue durée, etc., ont retrouvé goût à la vie, quoi. Voilà, cette histoire. Mais oui, mais pour avoir, il me fallait des mètres carrés. Pour construire, pour monter cette association. Et le seul bâtiment qui restait, c'était un bâtiment complètement pourri. Il fallait, alors j'ai fait faire un devis, 360 000 euros, francs, parce qu'à l'époque c'était des francs, c'était en 95, 360 000 francs qu'il fallait. Et la direction m'a dit, il est hors de question qu'on vous donne un seul centime. Débrouillez-vous. Et moi, je ne pouvais pas mettre cet argent, je ne l'avais pas. Alors, j'ai gagné, en 6 mois de temps, j'ai eu 360 000 francs, à part la somme nécessaire. Enfin, le conseil général m'a aidé, j'ai gagné des prix d'initiatives économiques et sociaux, enfin, il y a des entreprises, des fondations, etc. J'ai eu 360 000 francs, 6 mois de temps. En 9 mois de temps, l'association a été montée, j'ai appelé Loucienne Multiservice, hein, et... moi, je voulais retourner dans le business parce que c'était mon job. Et la direction générale m'a dit, mais est-ce que tu ne peux pas continuer? Tu n'as pas d'autres projets, etc. Ah ben, je dis, si vous voulez, on peut, enfin, j'ai d'autres idées là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une première émission de télévision qui est venue, une deuxième, une troisième. Je suis passé 8 fois à la télévision et les grandes entreprises sont venues et ont fait... la même chose, mais en fonction de leur contexte, bien entendu, à tel point que 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, il y avait le ministère du Travail qui avait fait une enquête et il y a eu 400 emplois qui ont été créés. Ce que je veux dire à travers ça, cette histoire-là, c'est pas ce que j'ai fait, parce que ça, je suis rien du tout, mais j'ai rencontré, comment dire, cette puissance de Dieu. Je n'avais qu'une chose, c'était le chapelet. Et les portes s'ouvraient. Et quand les portes s'ouvraient pas, c'était que c'est parce que la porte, c'était pas la voie. C'était extraordinaire. J'ai vécu cette expérience de Dieu à titre personnel. Voilà. Et on peut, si vous voulez, chacun de nous peut faire quelque chose en fonction de ce qu'il est, etc. Vous voyez. Voilà. Bon.
Je vous interromps, Yves, parce que la radio veut nous dire quelque chose, justement.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, je vais redonner la parole à Nathalie aussi. Pour qu'elles nous disent...
Vous écoutez Radio Courtoisie, le livre journal du monde de la foi. Dirigée par Nicole Pilorge, elle reçoit Yves Bégassa pour son livre « La Vierge Marie » à Medjugorje aux éditions Teki.
Alors nous avons reçu un message que je vais demander à Nathalie de nous lire.
Un auditeur de Radio Courtoisie, les apparitions de la bienheureuse Vierge Marie à Medjugorje seraient douteuses, des faux inventés par les 6 enfants auxquels elle serait apparue en 1981. Qu'en pensez-vous, Yves Bégassa? Que faut-il croire? Le Vatican, par le précédent pape, a reconnu le sanctuaire en septembre 2024, mais pas les messages. Pour ma part, je reste sceptique, bien que profondément dévouée à la Sainte Vierge.
Alors, ce que vous dites, c'est impossible de monter quelque chose comme ça, simplement surtout 6 enfants, enfin, même ça serait des adultes, c'est absolument impossible de faire ça. Je veux dire, ça serait fait dans l'histoire de l'humanité, on aurait des exemples, je les connaîtrais, enfin, c'est impossible. C'est quelque chose d'absolument surnaturel. Bon, les papes ont reconnu, le pape Jean-Paul II a reçu les voyants, et il a dit lui-même qu'il aurait souhaité aller à Medjugorje, mais il était très au fait de ce qui s'est passé. Et il disait que Medjugorje était le cœur. Enfin, je l'ai plus en mémoire dans mon livre. Il avait des paroles très très fortes à propos de Medjugorje. Benoît XVI a reçu les voyants aussi. Et a déclenché une commission d'enquête internationale présidée par le cardinal Ruini, une commission d'enquête qui a été assez longue du reste, et dont les résultats ont été donnés, transmis au pape François. Et le responsable de la Congrégation de la foi a diffusé un document en septembre 2024. Figurez-vous le jour des apparitions de la Salette, où la Vierge aussi disait à la Salette « Convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous ». Et il a diffusé ce document, un document de plusieurs pages, j'en parle dans mon livre, où il est reconnu, où les messages sont complètement reconnus comme étant évangéliques. Dieu sait heureusement que c'est évangélique, parce que venant de la Vierge Marie, bon. Mais
c'est bien développé dans votre livre.
C'est bien développé dans mon livre, oui. Mais c'est vrai que l'Église n'a pas reconnu les apparitions. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que il y a 4, 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus exactement, il y avait un certain nombre de critères pour faire en sorte qu'une apparition soit reconnue ou pas, et elle pouvait l'être par l'évêque local. Elle n'était pas obligée de l'être en attendant la volonté du pape. Ça pouvait l'être par l'évêque local. Et ces critères ont été complètement changés depuis 4 ou 5 ans, je crois. Il y a 6 critères, et le critère le plus élevé, c'est le nil obstat. Et Medjugorje a obtenu ce critère du nil obstat, c'est-à-dire, ben, on a rien de on n'est pas contre, on n'est pas pour, enfin voilà, c'était le truc complètement neutre. Je vais vous donner un autre exemple. À Pellevoisin, Monseigneur Beau a déposé un dossier sur les apparitions de Pellevoisin, qui date du XIXe siècle. Il a eu le nil obstat, pareil. Et pour que... Alors ça, c'est le premier point. Donc les critères ont changé. Le deuxième point, c'est que l'Église n'a jamais reconnu des apparitions quand les apparitions continuent. À Fatima, elle a reconnu, elle a fait une commission d'enquête, etc., après la fin des apparitions. À Lourdes, c'est pareil, partout.
Mais là, ça ne s'arrête
pas. La Vierge continue, apparaît tous les jours. Elle nous donne un message une fois par mois, mais elle apparaît tous les jours. Voilà. Maintenant... Elle apparaît toujours. Alors, elle apparaît... Au départ, elle apparaissait à 6 voyants.
Oui.
Elle leur a dit, je vous donnerai 10 secrets, le jour où vous aurez les 10 secrets, je vous n'apparaîtrai qu'une fois par an. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui voient la Vierge tous les jours et ils ont 9 secrets, et il y en a 3 autres qui voient la Vierge une fois par an et ils ont les 10 secrets. Voilà. Alors, je sais pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de l'auditeur.
Mais je trouve que c'est très, très important. Mais
lisez mon livre, lisez mon livre, monsieur.
Dès qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire,
ben oui,
il y a toujours des obstacles.
Il y a toujours des obstacles, oui, absolument. Mais vous savez que ce phénomène-là, appelez-le le phénomène Medjugorje, dure depuis plus de 44 ans, mais c'est impossible, humainement parlant, de monter quelque chose comme ça. C'est impossible. Vous voyez, rien que ça, ça devrait nous faire... Alors, ou alors, attention, hein. Ou alors c'est le diable qui veut ça. Alors là, je dirais, c'est fantastique, parce que si c'était le diable, il envoie tous les gens se confesser et aller à la messe. C'est-à-dire qu'il serait en train de se convertir. Alors si c'est pas possible au niveau humainement, si le diable, c'est, vous estimez que c'est pas lui, eh ben il reste que de bon Dieu. C'est ce qui se passe à Medjugorje, c'est la volonté de Dieu. C'est, nous sommes dans un temps de grâce. Convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. Alors, on n'a pas besoin de se convertir le fait de croire ou pas croire à Medjugorje, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que, moi, ça a changé ma vie, hein, je peux vous assurer, et j'en connais un certain nombre pour qui la vie a été complètement changée.
Toute conversion change la vie.
Toute conversion change la vie.
Puisqu'elle change le regard, elle change le cœur.
Oui, mais là-bas, il y a une telle proximité avec Dieu, avec la Vierge. Et c'est fantastique. Alors, j'ai entendu aussi, bah oui, mais pourquoi vous allez là-bas ? Il y a des sanctuaires en France et tout. Ah oui, mais avant d'aller à Medjugorje, moi, les sanctuaires, bon, je connaissais Lourdes, j'y suis allé avec mes parents il y a très longtemps, mais tous les autres sanctuaires, je ne les connaissais pas. J'avais un sanctuaire à 15 km de ma maison de campagne. J'y étais jamais allé, je ne le connaissais pas. Mais quand je suis revenu de Medjugorje, ma volonté et mon désir, c'était d'aller dans les sanctuaires. Et parmi les pèlerins que j'ai pu avoir, il y a des gens de Polynésie qui sont venus. Ils sont venus en France pour faire le M de Marie. Le M de Marie, oui, la rue du Bac, la Salette, Lourdes, Pontmain, Pellevoisin. Et c'est comme ça que j'ai connu tous les sanctuaires. Il y en a d'autres encore, hein. Il y en a d'autres. Mais c'est, comment dire, j'étais sourd, j'étais aveugle. Voilà, mais... non, c'est un phénomène absolument extraordinaire, extraordinaire. Allez-y, allez-y, si vous pouvez, hein, si vous pouvez.
Bon, je vais demander à notre délicieuse Virginie, qui est derrière la vitre, si elle peut nous donner encore une musique qui vous rappelle vos voyages merveilleux, vos pèlerinages. Merci.
Écoutez Radio Courtoisie, le libre journal du monde de la foi. Nicole Pilorge reçoit Yves Bégassa qui nous parle de la Vierge de Medjugorje.
Et je souhaitais vous parler aussi, chers auditeurs, puisque nous sommes dans la Semaine Sainte, un livre d'Annabelle Piquet. Annabelle Piquet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Si la neige tient, je vais vivre ». Et c'est une personne qui est malade et elle espère que la neige va tenir et qu'elle va vivre. Et elle sera baptisée lors de la veillée de Pâques. Encore une histoire très, très chrétienne. Alors Yves, il faut tout de même que nous parlions ou que nous lisions quelques-uns de ces messages.
De ces messages, oui.
Ces messages sont approuvés par l'Église.
Ces messages sont approuvés par l'Église, oui. Et puis si vous voulez, c'est absolument capital pour qu'elles viennent depuis 40, presque bientôt 45 ans. Je peux dire que sur les messages, il y a des messages d'avertissement. Je vais vous en dire un ou deux. Les messages d'avertissement qui nous indiquent les dangers qui pourraient advenir si nous ne nous tournons pas vers le Christ. Un de ces messages les plus forts, c'est la conversion. La conversion, convertissez-vous pendant qu'il est encore temps, dit-elle. Convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard.
Elle
répète souvent... C'est un temps de grâce, nous sommes dans un temps de grâce. Il ne faut plus tergiverser maintenant pour savoir si c'est... Non, il faut y aller, il faut lire les messages. Alors, c'est un temps... Je vais vous donner... je vais en prendre deux ou trois des messages, si vous voulez, sur ce qu'elle nous dit. Vous verrez que ce sont des mots qui sont quand même très forts. Elle dit, petits enfants, vous êtes... Alors, excusez-moi, je cherche... le monde d'aujourd'hui vit au milieu de grandes tensions et chemine au bord d'une catastrophe. Il ne peut être sauvé que s'il trouve la paix, mais il ne pourra avoir la paix que s'il revient à Dieu. Chers enfants, il n'y a pas de paix là où on ne prie pas et pas d'amour là où il n'y a pas de foi. Elle commence toujours ces messages par « chers enfants ». C'est-à-dire qu'elle nous appelle à la docilité, à l'écoute. C'est notre mère,
laissez
notre mère du ciel.
Laissez venir à moi les petits-enfants.
Laissez venir à moi les petits-enfants. Et il faut avoir le cœur ouvert, comme un enfant, pour écouter ce qu'elle nous dit. Elle a dit un des messages aussi très forts qu'elle a dit au tout début des apparitions. Excusez-moi, je cherche.
Il y a aussi l'histoire des secrets.
Alors, l'histoire des secrets aussi, oui, excusez-moi. Oui, au tout début des apparitions, c'était en 81, elle a dit « Une grande bataille est sur le point de se produire entre mon fils et Satan. Les âmes humaines en sont l'enjeu. » Voilà. C'est vraiment très, très fort. Alors, je vais pas vous faire... tous les messages qui entraient à l'avertissement. Mais ce que je dois dire, le deuxième point, c'est que ces messages sont des messages d'espérance. D'espérance pourquoi ? Parce qu'elle dit, il nous montre le chemin pour sortir du danger. Petits enfants, dit-elle, vous êtes mon espérance. Priez avec moi pour que se réalise ici ce que j'ai commencé à Fatima. Aidez mon cœur immaculé à triompher dans un monde de péché. Elle nous exhorte à vivre ces messages. Vivez mes messages, transmettez-les à tous ceux que vous rencontrez. C'est la raison pour laquelle je suis ici, moi, à Radio Courtoisie ce soir. En effet, la Vierge a un plan de salut pour l'humanité, mais elle ne peut le mettre en œuvre sans notre coopération. Dieu a besoin de nous. Il faut donc une conversion personnelle et puis prier véritablement, faire ce qu'elle nous dit. Aller à l'Eucharistie, le jeûne, la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, elle a pleuré le jour. Elle dit « Vous ne connaissez pas la parole de Dieu ». Or, si on ne connaît pas la parole de Dieu, comment peut-on connaître les commandements de Dieu ? Et le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ». Et pour aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, par expérience, je peux vous dire... que c'est par la prière et les sacrements, je ne peux pas le faire autrement. Avant, quand je ne priais pas et je n'allais pas à la messe ou ne me confessais pas, je ne pouvais pas aimer Dieu. C'est une grâce qu'il faut demander à travers la prière.
Et c'est, la prière, c'est quelque chose, c'est une intimité profonde avec le Seigneur, avec le Christ. En ce temps de la Passion, il faut, on ne peut pas tout comprendre. On est vraiment, il faut être comme des enfants, il faut avoir l'humilité de dire « je ne sais pas comprendre ».
On ne le comprend que dans l'expérience.
On ne le comprend que dans l'expérience. Et dans cette humilité, le Christ s'est abaissé complètement.
On donne une information, oui, bon, on veut bien l'écouter, mais
oui.
Donc l'expérience n'est pas là.
C'est ça.
C'est très difficile.
Oui.
Mais il y a des moments aussi où, lorsque vous êtes resté 20 ans, quand même, il y a un lien qui est resté.
Oui. J'avais des racines profondes. Je ne fais que remercier toute ma famille qui m'a porté dans la foi chrétienne.
Il y a eu un lien
incontestablement.
Un réveil.
Si vous voulez, c'était ce qui s'est passé, c'est une rencontre avec le Christ. C'est pas simplement parce que la foi chrétienne, c'est fides et ratio. C'est la raison, ce que je comprends, et ça c'est important. Parce qu'elle alimente notre foi. Mais la foi, c'est la relation à Dieu. Et cette foi, ce temps passé avec Jésus tous les jours, c'est capital, absolument capital. Voilà.
Mais la relation à Dieu, la prière, la foi, fait qu'on comprend autrement. Ça se renouvelle.
Tout à fait. On comprend autrement. On voit les choses différemment. Et à chaque fois, c'est un puits sans fin, parce que effectivement, la conversion, vous voyez, c'est pas simplement une rencontre et puis terminée. C'est un cheminement presque sans fin. Je ne sais pas s'il y aura une fin.
C'est tous les jours.
C'est tous les jours. D'ailleurs, la Vierge, vous parliez des secrets. Dans les secrets, on les connaît pas, mais il y en a un qu'on connaît parce qu'elle nous l'a dit. Il y aura un signe. Indélébile sur la colline des apparitions, je pense qu'il y en aura ailleurs aussi, il y aura un signe indélébile sur la colline des apparitions, beaucoup de personnes seront attirées, beaucoup seront converties, mais n'attendez pas ce jour pour vous convertir, n'attendez pas ce jour. Demandez la grâce, faut tout demander, hein. La foi c'est une grâce. C'est pas parce qu'on va pas l'obtenir par notre propre intelligence. C'est une grâce qu'il faut demander. Et tout est, il faut être comme un mendiant vis-à-vis de Dieu. Et il nous connaît mieux que quiconque. Il a un plan de salut pour nous. Et il faut le lui demander. Et c'est par l'Esprit Saint que nous avons la connaissance intérieure. L'Esprit Saint nous parle à travers, j'ai essayé d'expliquer un petit peu comment il m'a parlé, à travers des signes, à travers la parole de Dieu. Dans notre intériorité. Mais pour ça, si vous voulez, vraiment, il faut l'écouter. La confession, l'Eucharistie, la prière et le jeûne. Et lire tous les jours la parole. Il y a une grande... notre évêque des Hauts-de-Seine a lancé une randonnée biblique. Tous les jours, on lit un texte biblique. Alors c'est très intéressant, ça dure 4 ans, hein, parce que pour lire toute la Bible, mais c'est très enrichissant, moi je le fais depuis le début, ça a commencé le 8 décembre, je fais ça tous les jours, et vraiment ça m'enrichit, j'apprends beaucoup, et le Seigneur me parle, voilà.
Mais relire les évangiles, à mesure, ça se densifie,
ça se
renouvelle, ouais. La même phrase a un autre écho.
Tout à fait, tout à fait. C'est extraordinaire.
Une sorte de fraîcheur.
C'est absolument, oui. Oui, vous en parlez bien, c'est absolument.
Je voulais voir peut-être page 110, c'est dans les messages, parce que votre livre est plein de messages.
Oui.
Mais là-bas, à Medjugorje, il y en a encore plus, sur des bouquets, des bouquets, des bouquets de messages.
Ben, c'est-à-dire que les messages, c'est tous les messages du 25 du mois, vous pouvez les avoir sur le net, vous faites medjugorje.ws, vous regarderez, sinon vous faites Medjugorje, puis vous allez... Mire, c'est là...
On devrait trouver,
vous,
en cherchant.
Vous allez trouver.
Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez.
Mais medjugorje.ws, c'est intéressant parce que vous avez tous les messages et puis vous pouvez, par exemple, chercher sur l'amour. Bon, elle va vous dire exactement tous les messages qu'elle a enfin, le système va vous donner tous les messages concernant l'amour, concernant tel et tel point. Enfin, c'est bien fait.
Alors, elle termine ses messages en disant « Merci d'avoir répondu à mon appel ».
Ah, ça, c'est très beau. C'est la délicatesse de la Vierge Marie. C'est la délicatesse. Mais comme Jésus,
elle remercie.
Elle nous prend, c'est elle qui nous remercie de l'avoir écoutée.
Oui.
Et c'est, elle est d'une sensibilité. Le Christ, c'est pareil. Hein, tous les mystiques le disent, hein, bien sûr, pour vivre ce qu'il a vécu, la manière dont il a vécu, le genre de la Passion, c'est extraordinaire. Mais la Vierge est d'une sensibilité et elle vit nos émotions. Elle est proche de nous. Ça m'est arrivé plusieurs fois, beaucoup de fois, de voir les apparitions à côté de Myriana. Alors Myriana, elle a un visage, d'abord un visage très beau, c'est une belle femme, et on voit son visage avant, elle est comme un petit peu torturée, on peut dire, le visage de souffrance, et puis d'un seul coup, tout s'éclaire quand la Vierge est là. Son visage est lumineux, extraordinaire, complètement transparent. Et aussitôt que l'apparition disparaît, c'est fini, et à ce moment-là, elle retombe. D'ailleurs, il l'explique dans son livre, si vous voulez, elle est comme au paradis. Quand elle est avec la Vierge Marie, elle est comme au paradis. Rien n'apparaît, elle est dans une joie la plus totale. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il y a une osmose entre ce que ressent la Vierge et ce que ressent Myriana. Et quand la Vierge pleure, on voit Myriana pleurer. On ne voit pas la Vierge pleurer, mais c'est parce que Myriana nous le dit. Hein. Et c'est la Vierge, véritablement, elle vit ce que nous vivons et elle souffre de ce que nous souffrons.
Oui, nous avons encore un message... Je vais tout de même le lire, puisque c'est un auditeur.
Oui.
Mais je crois qu'il aurait intérêt à écouter les messages.
Ben oui.
Un auditeur de Radio Courtoisie vous demande pourquoi Joachim Boufflet, qui fut longtemps l'avocat du diable au Vatican, a toujours été sceptique sur ses apparitions mariales. Il nous avait dit, lors d'une conférence, que la Sainte Vierge n'a jamais été aussi bavarde.
Oui, ben écoutez, ce que vous dites, monsieur, ça me touche, parce que, figurez-vous, j'ai pas cité Joachim Boufflet, mais précisément c'était lui qui, dans cette émission que j'avais écoutée en août il y a 3 ans, je me suis dit, c'est pas possible qu'il raconte des choses aussi énormes. Et c'est à partir de là que j'ai pris ma plume et que j'ai écrit mon livre. Vous voyez ?
Ah, donc.
Mais je savais pas que c'était l'avocat du diable du Vatican. Je savais pas ça. Oui. Mais oui. Mais écoutez, partout, il y a des contradicteurs, des gens. Mais le problème, c'est que, enfin, je connais pas assez ce monsieur, mais combien de fois y est-il allé là-bas? Je sais pas. Moi, je suis allé là-bas 70 fois. Je suis pas là ce soir pour vous raconter des bêtises, quoi. Je vis de ça. C'est ma vie a changé complètement. Vous voyez, si je vous raconterai pas des mensonges, je serai mieux dans mon lit, hein.
Alors moi je vais vous lire un des messages. Je vous appelle à écouter mes messages et vous pourrez ainsi vivre tout ce que Dieu veut vous communiquer par moi.
Oui, eh oui, c'est ça. C'est une grande grâce. Elle remercie le Seigneur d'être là présente avec nous.
Elle
remercie.
Elle écoute.
Oui.
Et elle remercie.
Et elle remercie.
Lire celui-là.
Oui, un message du 25 janvier 1997. Chers enfants, je vous invite à réfléchir à votre futur. Vous créez un monde nouveau, sans Dieu, uniquement par vos propres forces. Et c'est pour cela que vous n'êtes pas content et que vous n'avez pas la joie au cœur. Ce temps est mon temps. C'est pourquoi, mes enfants, je vous invite à nouveau à prier. Quand vous trouverez l'unité avec Dieu, vous sentirez la faim pour la parole de Dieu et votre cœur, petits enfants, débordera de joie. et vous témoignerez de l'amour de Dieu partout où vous serez. Je vous bénis et je vous redis que je suis avec vous pour vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel.
C'est tellement vrai ce qu'elle dit, c'est tellement vrai, ça ne pouvait pas être autrement.
Tous ces messages sont... Ouais,
c'est extraordinaire.
Ah oui.
Elle parle aussi sur la foi. « Sans mon fils, il n'y a pas de salut. Vous devez reconnaître que c'est lui votre commencement et votre fin. Chers enfants, écoutez, car je désire vous inviter à avoir plus de foi, de confiance en Dieu qui vous aime sans mesure. » Oui, Dieu nous aime d'une façon... Plusieurs fois, elle a dit... Vous ne pouvez pas savoir combien Dieu vous aime. C'est extraordinaire.
Oui.
Alors évidemment, on se dit, mais si Dieu nous aime, pourquoi il y a ce mal? Mais elle parle beaucoup de Satan, Satan qui veut nous détruire. Elle a des messages très très forts par rapport à ça.
Cher Yves, l'émission va bientôt s'achever.
Ah oui, voilà.
Nous n'avons plus que quelques secondes. Alors je voulais... vous remercier, peut-être pour nous revenir, pour parler davantage
des messages. Sauf si les auditeurs ont lu le livre et à ce moment-là, ils pourront...
Et ils viendront, ils accompagneront.
Oui, je fais ça alors, gratuitement,
merci,
alors vous inquiétez
merci
pas.
Merci à vous Yves, merci à Nathalie et à Virginie derrière la vitre qui sourit, en belle danseuse qu'elle est.
Et merci à vous aussi Nicole.
Je termine comme terminait Jean Christaki de Germain. Que Dieu vous garde.
Et vous bénisse.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Monde de la Foi dirigé par Nicole Pilorge et assisté de Nathalie. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 31 mars 2026, de 21h30 à 23h, et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.